Ok. Voilà, maintenant je sais plus quoi faire. Est-ce qu'on se lance?
Meilleur lancement de Serial Causeur depuis 9 ans.
Non, arrête. Ça...
Ça
Arrête. Après, Tommy, il prend tes morceaux et je me fais tracher à chaque début d'émission. Ça me fait.
Serial Causeur. Drôle de nom pour un Pokémon.
Et là, vous l'attendez tous. Bienvenue dans Serial Causeur. Ne cherchez pas à régler votre micro, c'est Stéphane qui est au micro. Et d'ailleurs, ça sert à rien parce que vous réglez votre micro, ça ne sert à rien. C'était vos écouteurs, mais bon, c'est pas grave.
C'est trop nul, Stéphane, c'est trop long. Stop.
Non, c'est pas trop long. Tais-toi, Aki. Mais comme vous pouvez voir, Aki est autour de la table pour parler quoi? C'est Aki. On va parler de.
De séries françaises.
C'est bien. Et avec nous, il y aura Mélanie. Bonjour, Mélanie.
Bonjour.
Et il y aura, bien sûr, Lynn. Le petit Maxime, oh, c'est mon préféré, vous rendez même pas compte. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Ouais, tout le monde est gêné, ça y est.
Ouais, c'est pas grave. On est réunis tous autour de la table, maintenant tu m'écoutes, tu te tais. Pour parler de séries françaises, pour essayer de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, depuis la rentrée. Déjà de commencer par vous poser une petite question. Quelle est votre série préférée? Vous me dites juste son nom. Là, tour de table rapide. Mélanie.
Série française préférée?
Non, la série française depuis la rentrée. Je t'écoute. Oh non, Mélanie, quand même. Allez, tu passes ton tour. À qui?
Mon Dieu, mais tu nous prends au dépourvu.
Mais oui, il y a des trucs qu'il faut jamais faire.
J'ai que Désordre en tête, c'est la seule série qui me vient, alors que ça va pas être ça, en vérité.
C'est sûr, c'est clairement ça. Maxime.
Je dirais Les Papillons Noirs.
Bah. Ok, super. Allez, Mélanie, ton tour encore une fois.
Bah, Désordre aussi, hein, désolé.
Eh ben, pourquoi désolé? Mais non, au contraire, parce que c'est très bien tes ordres.
Ouais, mais en réfléchissant 2 minutes, j'aurais peut-être pu...
Eh ben allez, tu réfléchis 2 minutes, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Donc on va déjà commencer avec une question vraiment très large. Est-ce que vous pensez que le début de la saison française, hein, on s'entend, est réussi?
Oui.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je pense qu'il y a beaucoup, pour une fois, beaucoup plus de bonnes séries qui ont été lancées que de mauvaises.
Et je pense qu'il y a une diversité dans les séries, que ce soit en fantastique, en science-fiction, en drame, en historique, il y a eu de tout.
Alors, vas-y, je veux des noms, parce que moi, dans ma liste, franchement, j'ai pas ça. Alors, attends, je te fais une liste de tout ce qui est sorti depuis le mois de décembre.
T'en as en fantastique, toi?
Attendez, écoute, Marie-Antoinette, Désordre des combattantes, La fille au corps de cochon, Diane de Poitiers, L'homme de Neuville, Ultra loin, Miss Kina, Le monde de demain, Les papillons noirs, La maison d'en face, Notre-Dame, La part du feu, oui, c'est ça, Dark Knight sur mer, L'opéra saison 2, Tropique criminel, Les rivières pauvres, I3P, Le remplaçant, César Wagner, Détox, et j'en ai raté plein.
Ouskine, c'était quand?
Ça fait déjà beaucoup.
C'était avant les vacances.
Ah, Ouskine, c'était avant les vacances, sérieux?
Ouais.
Les 7 vies de Léa aussi?
Oui, oui, c'était avant les vacances.
Ok.
Qu'est-ce que tu considères de la SF et du fantastique là-dedans? Parce que.
Bah
là,
oui, bah du coup, je pensais aux 7 vies de Léa, mais c'était peut-être un peu avant.
C'était genre en mai, je crois, de mémoire.
Ah, punaise, et mais ouais. La vie passe vite, excusez-moi, j'ai peut-être juste regardé un peu tard. Alors, c'est juste pour ça. Hein.
Bon, tu sais que t'as le droit, hein, malgré tout.
Je suis en retard dans les séries, que voulez-vous que je vous dise?
Bon, alors.
Vortex.
Ah non, c'est pas encore.
Mais bientôt, ça peut compter.
si tu l'as vu en avant-première, oui, mais pas pour nous en tout cas. Donc, Aki, pourquoi tu trouves que la saison est réussie alors? Parce que bon, on voit bien que la différence de genre, merci quoi.
Bah si, honnêtement, il y a plus de choix que d'habitude déjà. Les plateformes ont fait leur job en proposant des choses un petit peu différentes et on n'avait pas que les séries de France Télé que j'apprécie modérément et des autres chaînes hertziennes. Donc franchement, ouais, il y a eu beaucoup de choix quoi. Et pour le coup, des choix qui marchent sur moi. Voilà.
Et il y a eu aussi beaucoup de choix visibles. Moi, j'ai trouvé que la promotion des séries françaises depuis la rentrée, elle était quand même assez forte par rapport à d'habitude. Je vois la promotion de Le Monde de Demain ou Désordre. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de visibilité des séries françaises par rapport à l'énième retour de Grey's Anatomy sur TF1 ou la chaîne NCIS M6, quoi.
Tout à fait.
Oh, arrêtez.
Non, mais... Très honnêtement, j'ai trouvé que pour une fois, j'avais l'impression que les chaînes françaises étaient fières de ce qu'elles avaient produit et ça m'a donné envie d'y aller.
Alors...
Et ils ont eu raison, il y a eu genre des grosses séries ambitieuses en plus, donc oui.
Ah, on a oublié La Flamme aussi. Hein.
Et c'est ce que j'allais dire, on a eu quand même des grosses soirées hein, avec Les Combattantes versus les rivières pourpres. Il y a eu d'autres soirées où il y a d'autres... Mais en plus, il y avait aussi Désordre qui s'est rajouté sur la fin. Il y avait quand même 3 grosses propositions pour trois publics différents, et il y avait quand même énormément de monde devant la télé française, les séries françaises, ce qui est franchement rare, je trouve. Hein.
Puis il y a aussi un truc de les chaînes, enfin, les plateformes et les plateformes de replay ont super bien fait leur taf. Enfin, pour,
tu peux la nommer, tu sais. Hein.
Oui, non, mais j'allais arriver pour pratiquer Netflix de temps en temps. Le fait qu'elles arrivent à avoir les droits, bon, parce que c'était fait en amont comme ça, mais qu'elles arrivent à avoir les droits du monde de demain très rapidement.
Et des papillons noirs aussi.
Et des papillons noirs, ouais.
Ça m'a un peu choqué, je vous avoue ça.
Mais je pense que c'était le deal de départ. Ils ont dû mettre de l'argent dans la série pour ça. Mais
oui, c'est sûr.
Le fait que c'est dommage parce qu'on tape sur la chronologie. Fin, on tape dans la chronologie des médias et ça, c'est un peu dérangeant. Mais mine de rien, ça a permis de donner une seconde visibilité ultra rapidement à la série et non pas la diffusion, pas quotidienne, hebdomadaire. Et ça a permis de toucher un autre public que les séries françaises touchent pas trop d'habitude, sauf les séries Netflix. Et bah, la série Netflix, c'est quand même la série française à la Netflix, à part Emily in Paris, c'est un peu pourri, quoi. Enfin, même
Emily
in Paris,
c'est même Lupin, ouais. Ça va, n'exagérons
oui,
pas.
Non, mais c'est que Netflix qui porte ces titres-là. Et là, oui. Je trouvais qu'ils avaient réussi conjointement avec Arte. Arte fait un super boulot.
Est-ce que vous savez si Le Monde de Demain et Les Papillons Noirs sont toujours sur la plateforme d'Arte?
Eh bien non, ça, je trouve ça horrible. Arte.tv. Ah ouais.
Mais ça,
je trouve
triste,
ça horrible. Parce que voilà, c'est très triste. Parce que Arte.tv, n'oublions pas, c'est accessible à tout le monde et gratuitement. Voilà. Donc en fait, quand on le sait, ça, enfin, il y a tellement de possibilités. D'ailleurs, il y a Life en ce moment que je vous conseille à tous. Voilà.
Mais Life, la série avec Sarah Chahi?
Non, pas du tout. Life, non, pas Sex Life.
Il y avait une autre série qui s'appelait Life avec Sarah Chahi, avec Damien Lewis. Ouais.
Ah oui, celle-ci, non, pas celle-ci. Bon, bref, une nouvelle série qui est très bien, anglaise, top.
Mais maintenant, Arte a un contrat avec Netflix, parce que même ça avait déjà été le cas avec comment ça s'appelait, Nina et ses filles, où ça avait été directement remis sur Netflix et c'était pas resté sur Arte.
Ouais. Oui.
Nona, pardon.
Je pense pas qu'il y ait un contrat, mais je pense que c'est du cas par cas.
Oui, je pense qu'il doit y avoir des deals de production derrière qui se font et qui permettent à Netflix de peut-être déroger en fait à cette chronologie des médias et donc de diffuser la série après la diffusion à la télé, mais quand même pas trop longtemps après. Et mine de rien, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la plateforme Arte, elle est gratuite, vaut mieux aller sur Arte que sur Netflix, ça, il y a zéro doute possible. Mais mine de rien, ça fait que le produit culturel en lui-même peut toucher plus de monde. Et
bien
je
sûr.
Trouve que c'est pas dégueulasse parce que quand je vois, par exemple, ma sœur qui regarde pas de série et qui se tape Le Monde de Demain parce qu'elle adore Joey Star, mine de rien, c'est un autre biais pour arriver aux séries et Quand les séries sont bonnes, c'est pas dérangeant. Si c'était que des séries TF1 qui allaient sur Netflix, ce serait un peu plus chiant.
Elle aime bien Joey Star, mais est-ce qu'elle a regardé Le Remplaçant sur TF1?
Non, je sais pas. J'en sais rien. Très honnêtement.
Oh,
tu lui poseras la question, on veut savoir et on veut son retour parce que c'était autant le pilote était pas trop dégueulasse, autant la série était juste catastrophique.
Ce passage sur Netflix, ça a un peu. J'ai presque envie de dire qu'on perd le statut de série française intello-élitiste d'Arte et Télérama et pour arriver sur un produit juste télévisuel Netflix, en fait.
Ouais,
mais c'est pas le cas pour ces séries, genre dans le sens où ce sont pas des séries formatées. Hein. On perd un peu de... Oh, punaise, comment je peux dire? Il y a un peu cette aura qui disparaît et tant mieux, quoi.
Mais oui, de prestige, vraiment.
Oui, c'est ça.
Vous trouvez que c'est beaucoup plus accessible parce que c'est sur Netflix que
bien
si
sûr.
Les gens se seraient...
C'est quand même drôle que ce soit plus accessible sur une plateforme payante que quand ça reste sur la plateforme gratuite.
Oui, mais c'est le grand public Netflix. Le monde de demain, nous appartient. Voilà.
On est quand même dans un monde où la plupart des gens ont plus le réflexe de cliquer sur le bouton Netflix sur la télécommande que sur le bouton Arte, et ou alors de faire la démarche d'aller sur la plateforme Arte. Donc, pour moi, je suis d'accord avec Aiki, ça permet aussi de casser un peu l'image d'une, Netflix fait que de la merde, elle peut aussi coproduire des choses bien quand elle n'y met pas son grain de sel, et de deux, tout le monde a le droit à ses séries, en fait. Il n'y a pas juste celui qui va voir les 3T dans Télérama qui peut regarder une série qui a été exigeante en termes d'écriture, en termes de réalisation, et moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre que, enfin, le public aussi s'habitue à des séries de meilleure qualité, quoi.
Tout à fait, ça désacralise, quoi, tout simplement.
Moi, je les aurais quand même laissé un petit peu plus longtemps sur Arte, parce que là,
oui.
Dès qu'à
Non, alors Mélanie, par contre, en revanche, la série était quand même disponible au moins 15 jours, voire même un peu plus, en amont de la diffusion française.
Oui, en amont. Donc,
oui,
voilà.
Mais bon.
Mais le tapage médiatique n'a pas commencé le jour de la diffusion. À la radio,
oui, non,
je les ai eus dans toutes les émissions de France Inter à peu près tous les jours pendant 3 semaines. Donc, les gens, s'ils voulaient vraiment la regarder avant, ils ont pu le faire aussi. D'ailleurs, oui. C'est quelque chose de très bien de la part de... Tu me diras, c'est ce que fait Salto aussi, hein, mais d'Arte de proposer aussi suffisamment en amont les séries.
Enfin, bon,
de toute façon, on aime beaucoup tous Arte autour de la table, donc déjà, voilà, ça va pas... En parlant de qualité, parlons de TF1, est-ce que vous trouvez pas qu'ils ont tendance à refaire toujours la même série avec les mêmes acteurs, avec les mêmes scénaristes?
Non, mais Les Combattants, c'est bien sûr le bazar de la charité, quoi. Enfin, il n'y a rien à redire.
Sachant que c'était leur grosse locomotive de rentrée, le bazar... tu vois, je suis perdu. Les Combattants.
Les Combattants.
Ça a pas mal fonctionné. Elle est arrivée aussi sur Netflix assez vite. Je ne sais pas si elle a marché sur Netflix, d'ailleurs.
Dès la fin de sa diffusion, je crois, non?
Oui,
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 peut-être
une semaine
un mois après. Peut-être.
Oui, voilà. Peut-être. Non, moi, ça fait beaucoup, quand même. Est-ce que il y a pas quelque chose à faire là du côté de TF1? Il faut qu'ils se sortent les doigts, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de faire la même chose, quoi, tout le temps.
Quand ça marche, ça marche. Ouais. Hein. Pourquoi aller chercher plus loin?
Mais puis je pense qu'on en attend trop de TF1. C'est juste pas la chaîne où on trouvera de bonnes séries. Enfin, ça existe aussi en Angleterre, ça existe aussi aux États-Unis, des chaînes qui produisent des séries que nous on va trouver moyennes en termes de qualité et mine de rien, trouvent toujours leur public.
Oui, c'est pour un certain public, quoi.
Malheureusement, en fait, je pense que c'est dans les habitudes des consommateurs de manière générale. Tu as des publics de niche, tu as des publics un peu moins confidentiels et tu as le grand public qui regarde des programmes qui plaisent à tout le monde parce que ce qu'ils recherchent, c'est plus du confort pour moi que, je sais pas, d'être un peu... Enfin, j'allais dire être challengé, mais c'est super péjoratif pour eux, mais... Non, quand ils regardent la télé, ils cherchent juste à s'évader, quoi. Donc, en effet...
Il faut dire que, quand même, le contexte de la série, qui est quand même la Première Guerre mondiale, n'est pas dégueulasse non plus. Ça, quand même, permet de changer un peu de ce que faisait TF1 jusqu'à présent, quoi. C'est-à-dire du polar, quoi.
Oui, mais t'as le confort de retrouver des actrices aussi.
Oui, mais en fait, je trouve qu'elles sont bien dans leur rôle et que l'histoire marche bien. Enfin, honnêtement, j'ai rien à redire contre Les Combattantes, hein. C'est un bon produit TF1, voilà.
Et moi qui ai rattrapé très récemment le bazar de la charité, je m'attendais à un truc vraiment pas top au vu des retours que j'en avais à l'époque. Et en fait, de rien, c'est quand même super bien produit. Enfin,
ah oui.
Même si
et coproduction avec Netflix, hein, donc ils ont mis un peu plus de moyens aussi là aussi de ce côté-là.
Ouais, bah comme quoi en fait Netflix ne fait pas que du mal en France si ça permet aussi d'avoir d'aller sur des chaînes françaises et de mettre juste un peu de thunes pour que le produit soit beau. Moi je dis go for it, quoi.
Oui. Et franchement, toutes les productions Netflix, là, sont quand même un peu différentes. Hein.
C'est 2019, hein, c'est pas l'année dernière.
Ah, voilà. C'est 2019. Non, déjà,
ouais.
La vache, j'étais persuadée que c'était l'année dernière. Ok,
il y a deux ans.
Stéphane, là, il va falloir que tu poses une question où on va critiquer Netflix parce que ça fait quand même 2 fois qu'on lui donne des bons points. J'aime pas trop.
Mais parce que tu parles qu'ils ont juste d'aligné des sous. Hein. Après, ils n'ont rien fait. Hein. Comme tu disais...
ils poussent les jeunes talents. Bon, c'est ça aussi que j'aime bien avec les nouvelles plateformes, que ce soit Netflix ou Disney et plus.
France TV Slash aussi, merci.
France TV Slash, même Prime en vrai. Hein. Et je trouve que là, c'est notre génération qui arrive en fait à l'écriture. Ouais. Et tu le sens tout simplement. Et tu sens que, ok, dans un sens, ça... Peut-être que c'est un défaut le fait que ça se ressemble de plus en plus dans la narration à des séries anglo-saxonnes, mais on parle quand même de sujets qui sont propres parfois à la France. Et c'est cool en fait d'avoir des gens qui élèvent un peu l'écriture. Voilà.
Et moi, je rajouterais à ça que je suis pas d'accord avec toi, Stéphane, quand tu dis ils alignent juste l'argent. Bah, je suis désolé, mais on est dans un contexte aussi à la télévision française ou même dans le cinéma où les acteurs historiques. Ils peinent à financer des projets et notamment, enfin, tout type de projet, que ça peut être grand public ou quelque chose de plus confidentiel. Et là, où on n'a plus un Canal Plus, où on va plus pouvoir compter sur la redevance télévisuelle pour audiovisuelle pour ça, ils ont poussé à ça en fait. Ils ont poussé à ce modèle et pour moi, bah, Netflix vient comme un nouveau partenaire, il met de la thune, et bah, on a quand même des fictions françaises qui tiennent la route et qui... Ben, on n'a plus honte devant un Peaky Blinders, enfin, ouais, un Peaky Blinders, ouais. C'est un peu trop, mais enfin, on n'a plus honte devant les séries anglaises ou les séries américaines en termes de production. Après, en termes d'écriture, c'est autre chose, mais en termes de production, au moins, c'est plus le parent pauvre, quoi.
Vous avez parlé de nouveaux talents, et pour le coup, cette année, je trouve qu'on a été extrêmement bien servi. Donc, on ne va pas parler des mondes de demain, parce qu'on vient déjà d'en évoquer un petit peu. Je vais juste mentionner Ultra Loin et La Fille au cœur de cochon, qui sont sur France TV, France.tv. Donc, c'est deux séries que je vous invite à regarder. De toute façon, j'avais déjà parlé d'Ultra Loin. Et on va juste parler de deux petites nouvelles dans le monde de la série. Florence Foresti et Mélia Bédia, qui nous ont offert quand même, je trouve, les deux meilleures séries de la rentrée avec Désordre et Miskina. Est-ce que vous les avez regardées?
Mais je suis ravie que tu aies aimé Miskina, franchement, parce que genre, les gens comprennent pas pourquoi j'aime Miskina, alors que pour moi, c'est genre évident, il y a tous les ingrédients qui font que j'aime une série. Des immigrés, désolé, mais j'adore les histoires de famille, d'immigration et voilà, de réunions comme ça. C'est une comédie et ça nous en apprend plus sur une autre culture. Donc, bref. Voilà, okay. Je trouve Miskina, c'était vraiment très bien.
Comme quoi, c'est bien que... C'est sur Amazon, hein, c'est ça?
C'est sur Prime,
oui,
yes.
C'est Prime. Pour le coup, c'est la meilleure série de Prime.
Et ils n'en ont fait aucune pub. Hein. Zéro non. Promotion autour de cette série, ça m'a dégoûté.
Elle est tout seul sans pub, en plus. Voilà.
Tu peux finir la fucking phrase?
Non, on s'en fiche.
Non, mais... Comme quoi, ça fait du bien aussi que les plateformes puissent fournir des séries comme ça, parce que, bah, comme le dit Aiki, toi, tu t'intéresses à des séries d'immigrés, et c'est des trucs que les chaînes françaises n'ont pas l'habitude de faire.
Oui.
Ou oui, mal.
Enfin, oui, voilà, il y en a quand même, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas été réussi à chaque fois, et personne ne les a regardées. Mélanie, un avis sur Miskina ou Désordre? Sur les petites nouvelles, donc Florence Foresti et Mélia Bédia?
Désordre, parce que Miskina, je ne l'ai pas encore vu. Elle est sur ma liste, mais ce n'est pas encore fait.
Eh bien, on te la recommande chaudement.
Ah oui, je sais, c'est prévu. Désordre, on en avait déjà parlé. Après, j'aurais même peut-être aimé quelques épisodes en plus, parce que ça a été assez court, mine de rien, ça s'est vite vu. Le parallèle entre sa dépression, sa vie avec sa fille, la recherche de son nouveau spectacle, enfin, je trouve que tout se mariait bien. Et que ça s'est plutôt bien conclu, même s'il y avait parfois quelques creux dans l'histoire.
Peut-être sauf à qui, parce qu'elle a rencontré Florence Foresti, elle n'a pas aimé.
Mais quoi? Mais j'ai jamais
Pardon
dit que j'avais pas aimé.
Non,
j'ai bien
non, c'est que non, t'as vu une interview d'elle où t'as pas aimé ce qu'elle avait dit. Donc,
oui, ça, voilà. C'est ça. J'aime pas sa position par rapport aux hommes, oui. C'est tout.
Mais... Moi, Désordre, elle loupe d'une marche, du coup, pour moi, la meilleure série française de l'année, en tout cas de la rentrée. Parce que, justement, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'aura pas de saison 2. Et vraiment, c'est...
Non, elle n'a pas dit... Alors, elle n'a pas dit c'était comme ça.
Ouais, enfin,
elle a dit que, pour le moment, elle ne pensait pas revenir dessus, mais ça se trouve, après son spectacle, la Boys, 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 elle aura une nouvelle envie d'en parler. Mais en fait, elle ne veut pas coller à son actu, entre guillemets. Ouais. Donc, elle a besoin de quelques années pour digérer, quoi.
Ok.
Ça donc, c'est pas, ouais, c'est pas exclu.
Parce que sinon, ça faisait vraiment le plaisir d'une comédienne, alors qu'en effet, comme Mélanie l'a dit, comme... Stéphane l'a dit aussi en présentation, j'ai trouvé que c'était vraiment la révélation en termes d'écriture, en termes d'idées, sans forcément se diluer elle-même là-dedans. On retrouve ce qui fait plaisir quand on la voit elle. Et je me dis, mince, elle a peut-être loupé du coup j'aurais bien aimé un deuxième tournant de carrière, j'arrête les spectacles et en fait je me mets à la série parce qu'en fait je suis pas bien pas quoi.
Mais après, elle a dit qu'elle avait adoré l'expérience et tout. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit exclu. Hein.
Mais ce qui était bien, c'est que ça n'a pas viré à l'ego trip. Ce qui aurait pu être le truc le plus facile. En fait, elle a pris tout ce qui était les bonnes solutions qu'elle aurait dû prendre ou qu'on aurait dû lui forcer à lui mettre dans la main. En fait, elle a tout jeté, elle a fait autre chose. Et franchement, je l'applaudis parce que j'avais vraiment très peur quand j'ai lancé le premier épisode.
Pour moi, elle a regardé en fait des séries anglaises et des séries américaines. Elle a chopé toutes les bonnes idées qu'elle a trouvées qui lui collaient et elle a gardé aussi ce qui fait la touche française.
Bah, va dire ça à Gad Elmaleh ou Blanche Gardin qui ont fait la même chose et qui se sont vautrés lamentablement.
Oui, mais nombriliste, quoi.
Ouais.
Ah ben...
Ouais, elle avait beaucoup cité Curb Your Enthusiasm, quand même, comme inspiration.
Oui, bah, j'imagine que Gad Elmaleh, il a beaucoup cité Seinfeld et c'est pas pour autant qu'il a réussi à faire du Seinfeld.
Ouais, mais je suis d'accord avec Aki, Blanche Gardin et Gad Elmaleh. En fait, ils sont restés sur un truc qui était quand même très égocentriste.
Ouais.
Égocentrique, pardon, qui tournait vraiment autour de leur nombril, là où Florence Foresti, elle s'est dit bon, c'est le personnage que je vais jouer, quelqu'un oui. d'assez égocentrique, enfin voilà, d'assez tourné vers moi-même, mais le thème dont je vais parler, donc la dépression et aussi la difficulté de un peu de trouver sa place dans un monde où tu te sens pas toujours à l'aise, elle en fait le thème de sa série, et c'est là où je trouve que c'est intelligent parce que ça parle à tout le monde en fait, enfin. Et elle le montre juste avec le personnage que tout le monde connaît. Et tu te doutes bien quand tu la vois qu'elle n'est pas H24 comme ça. C'est pas possible. Enfin...
Ouais. Oui. À qui ? Parce que je sais que tu viens de m'envoyer un message en privé. Les gens vont tout savoir. Tu veux nous dire quelque chose sur La fille au cœur de cochon et Ultra
Noir ? C'était pas du tout en privé déjà. C'était aux yeux de tous pour que tout le monde puisse se le rappeler. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est vrai que tu as mentionné les séries, mais on n'en a pas parlé. Je sais que Mélanie aussi a vu La fille au cœur de cochon.
Oui.
Bah. Enfin, j'ai trouvé le sujet vachement intéressant et c'est vrai que France Télé Slash se permet des choses, quoi.
Explique un peu plus que pitch-nous la série, voir juste qu'on rigole, ouais. et ce que ça raconte et ce que ça essaye de raconter.
En gros, c'est un peu une ça tourne autour de deux jeunes ados, enfin jeunes, ils sont au lycée, quoi. Et il y a une fille qui est malade et qui a reçu une greffe d'un cœur de cochon, littéralement.
Une valve.
Une valve, oui, tout à fait. Et donc, elle la prend pas tout de suite, elle la prend après son opération. Et elle va y avoir, du coup, un intérêt, une fascination pour les cochons. Et donc, arrive un camarade de classe, c'est son père s'occupe d'une porcherie industrielle. Et oh putain, c'est trop mal raconté encore. Je m'entends et je me dis putain, on comprend rien. Et donc du coup, ils vont décider de sauver un porcelet de l'abattoir. Et pour ça,
qui est malade, ouais, Fleur.
C'est ça, Fleur. Et pour ça, ils vont faire un road trip à travers la France, de Bretagne jusque je ne sais où.
Dans les Pyrénées, écrit avec deux N. Ça m'a fait mal aux yeux quand j'ai vu ça.
Et donc il y a toute une histoire de c'est que le mouvement animaliste, par exemple. Pourquoi
est-ce que la souffrance animale aussi
la souffrance, tout à fait. Et donc, ça tourne un peu autour de l'écologie, autour de la place de l'animal. Et alors, autant on sent qu'il n'y a pas beaucoup de sous derrière, mais je trouve qu'il y a une bonne thématique et un bon message aussi. Et comme toutes les séries slash qui s'adressent aux jeunes, en vrai, je trouve que tous leurs sujets sont incroyables. Et voilà, on n'en parle pas assez, quoi. Mais franchement, ça, c'est chaud, le budget.
J'ai une question, parce que je n'ai pas vu, ni La fille au cœur de cochon, ni Ultra Loin, je ne les ai pas encore vues. C'est des vraies séries, dans le sens où...
Oui.
C'est bien ça, le problème. Bah, je vois ce que... Oui, c'est des vraies séries, mais...
C'est pas un téléfilm découpé en quatre parties, enfin...
Non. En termes de narration, c'est des vraies séries.
Ok, d'accord.
Là, t'avais 8 épisodes, par exemple.
Ok.
Et vraiment des épisodes, pas un truc long qui est coupé en 8.
Ouais, mais pour moi, c'est genre une web-série, quoi, si vous voulez.
Ouais, on va pas... Ouais, d'accord, ok.
Voilà.
non, mais ça me fait mal au cœur de l'entendre qualifié comme ça, alors que malgré tout... Enfin bon, c'est pas...
Mais franchement, je reconnais la qualité, mais à l'image, c'est parfois compliqué.
Je te trouve dur là-dessus quand même, mais bon. C'est vrai qu'on voit que c'est un peu fauché, mais pas autant que tu le laisses sous-entendre. Enfin, personnellement, je trouve pas autant.
C'est suivant les épisodes. Il y a des scènes, il y a des moments qui sont... Par exemple, la scène du restaurant, je sais pas si tu t'en souviens, mais... Tu te demandes ce que la scène fait là, quoi. Ça n'a rien à voir avec le reste de la série. T'as l'impression que c'est le gros moment what the fuck du moment, quoi.
Mais ça donne une certaine ambiance, je trouve.
Mais c'était super chelou, non ?
Oui, mais c'est, ça colle parfaitement avec la série, en fait.
Oui, série est un peu chelou. Hein.
Oui, clairement.
Mais bref.
Mais chelou dans le bon sens du terme. Hein. N'ayez pas peur et allez la regarder. Elle est disponible gratuitement sur France.tv.
Slash.
Oui, enfin, mais sur France.tv, elle y est aussi. C'est plus simple parce qu'il y a pas de... la plateforme, elles sont combinées. Oui, d'ailleurs, avec ces deux séries, on voit que ben, ça ose, mais sur France.tv ou France.tv/. Est-ce que c'est pas ce qui manque sur toutes les chaînes grandes, enfin les chaînes nationales, les grandes chaînes comme M6 et TF1 par exemple, ou même France 2 qui viennent se vautrer comme une grosse merde avec Diane de Poitiers, quoi. Enfin, parce que ça manque d'ambition et que ça manque de qualité d'écriture, etc.
Je pourrais
vous citer les séries de M6, enfin les polars de M6 un peu chelou là.
Non, il y en a pas.
Je crois que la maison d'en face est l'homme de nos vies, mais en fait, tout le monde s'en fiche.
Je vois même pas ce que c'est.
Attendez, il y a aussi, enfin, M6, ils sont jamais positionnés sur on veut faire de la qualité. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi un truc de.
À un moment donné, je suis désolé, c'est plus un argument, ça. Soit on essaye de faire de la qualité, ou on fait pas de série du tout, quoi.
Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Maxime pour le coup.
Non, mais si c'est pour un remplissage de cases, ça va pas le faire.
C'est pas ça, l'homme de nos vies, c'est peut-être mauvais, mais tout l'audience, l'audimat que ça apporte, ça marche en fait pour un certain public.
Je me trouve encore plus élitiste que d'habitude.
Non, à un moment,
les séries à papa aussi, ça va plus marcher, il n'y aura plus cette génération pour regarder. Donc il va bien falloir qu'ils recadrent leurs espérances sur leur série M6, parce que là...
Moi, je suis absolument pas d'accord. Enfin, on regarde la télé française beaucoup plus durement qu'on regarde la télé américaine, parce qu'on est quand même un peu loin en termes de cible directe. Mais à la télé américaine, c'est pareil. Il y a des chaînes qui sont globalement réputées pour faire des trucs juste pour faire de l'audience. Et tout est programmé pour faire de l'audience. Quand tu lances un énième NCIS ou un énième CSI, tu cherches l'audience, tu cherches pas la qualité. La qualité, elle vient si t'as le mec qui est assez malin pour engager des gens qui savent bien faire le taf et qui vont bien le faire avec le cadre qu'ils ont. Mais non, les séries télévisées, à la base, c'est quand même là pour rameuter les gens devant leur télévision et faire de la thune.
Après, mais tu peux faire un peu des deux.
Oui.
Non, mais je suis d'accord avec Maxime.
Faire le deuxième, on le voit bien, les bonnes séries aux États-Unis, elles sont arrivées quand le câble est arrivé. Il y en avait quelques-unes de bien avant parce qu'il y avait des gens qui savaient bosser, mais c'est là où sont arrivées les bonnes séries, parce que derrière, tu avais des investisseurs qui étaient plus intéressés par la marque prestige de faire des œuvres culturelles, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et en France, c'est exactement pareil. Enfin, on a beau taper sur TF1 ou sur M6 en termes de qualité, parce que nous, on exige de la qualité des séries qu'on regarde, mais eux, ils font aussi en fait juste leur job. Nous, faire une audience à 500 000 personnes parce que la thématique, on n'a pas mis assez d'argent, ça les intéresse pas, c'est tout.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et aussi, il y aura toujours un public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peut-être que nos parents, nos grands-parents regardent M6, mais en fait, il y a des gens de notre génération, des plus jeunes générations, qui regardent aussi aujourd'hui et qui vont continuer au fur et à mesure. Et ça, c'est complet. Enfin, ça, ça va jusqu'au bout des temps, quoi, la fin des temps.
Mais par contre, là où je rejoins Mélanie, c'est. Est-ce que ce modèle il va durer encore 20 ou 30 ans? Je suis pas sûr. Je pense qu'à un moment ça va se péter la gueule.
Attendez, n'allez pas trop vite parce que j'ai des questions sur l'avenir de la télévision à la fin.
Très bien.
De toute façon, là on parle de séries françaises, mais le plus gros événement, l'événement le plus triste, c'était la fin de Plus belle la vie. C'est ce qui, donc le vendredi 18 novembre, alors c'est dommage parce qu'Élodie a eu un souci technique parce qu'elle aurait pu nous en parler et nous dire si elle avait pleuré devant, parce que je sais qu'autour de la table, a priori, on s'en fiche un petit peu de Plus belle la vie.
Mais on a dit au dernier épisode qu'on était tous tristes.
Oui, tristes pour les
Maxime
équipes.
Maxime et moi étions tristes en tout cas.
Oui, moi je suis triste parce que justement,
c'est quand même un pan de la télévision qui s'arrête. Voilà.
C'est ça, et je pense que c'était pas le bon pan qui devait s'arrêter parce qu'il y avait quand même un intérêt derrière la série, même si moi personnellement, comme j'ai dit la dernière fois, je regardais pas peut-être aussi à cause de la qualité. Je me dis que ça s'adressait quand même à un cœur de cible qui était super large et ça donnait des choses du grain à moudre dans la tête des gens sur des sujets qui étaient relayés nulle part ailleurs. Et pour ça, je trouve que c'est dommage que ça s'arrête.
Tout à fait. Je crois qu'on l'avait dit au dernier épisode, désolé.
Oui, oui.
Oui, mais c'est-à-dire que peut-être tout le monde ne nous écoute pas et peut-être qu'il y a des
Oui,
gens
bien
qui
sûr.
devraient nous écouter juste parce qu'on parle de séries françaises. Et d'ailleurs, merci d'être là si c'est le cas. Alors, maintenant que tout le monde a pu réfléchir, je vais vous demander une recommandation. Série française, peut-être qu'on n'a pas mentionné, que j'ai oublié de dire. À qui? On t'écoute.
Oui, du coup, moi je pense à Brigade Mobile, qui est sur Arte, notamment. Enfin, pas notamment, parce que c'est une production Arte, en fait. Donc, c'est juste sur Arte. C'est imaginé par Fanny Sidney, donc l'actrice qui joue Camille dans 10%, par exemple, mais qui fait de la réal aussi. Et en fait, c'est The Office. J'irai dormir chez The Office. C'est un peu j'irai dormir chez The Office.
Oula,
Non.
je crois que c'est ton meilleur
Ouais.
pitch en fait.
Oh, wow, merci. Et donc, c'est une brigade mobile littéralement des policiers, deux policières qui vont bouger en camping-car dans un coin paumé de la France pour faire de la police de proximité jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin, il y a une enquête plus. Plus complexe, etc. Mais c'est filmé en mockumentary et rien que le générique, si vous le regardez, vous fera penser à The Office ou à Parks and Rec, c'est sûr. Et je trouve que c'est à cette même vibe avec des petits regards caméra. En fait, les gens qui jouent parfois ce sont même des non-professionnels, c'est juste les habitants du village, quoi. Et c'est trop drôle. Honnêtement, c'est juste, c'est très drôle.
Ça dure combien de temps? C'est du 20 minutes?
Même pas, il me semble. Hein. Je crois que parfois il y a du 15 minutes, hein, donc c'est assez court, ouais.
D'accord, ok. C'est
Et
pas
donc
un
ça
programme
s'appelle
court, quoi.
Brigade Mobile.
Ah.
Brigade Mobile, ouais.
Tu l'as
Ok.
super bien pitché, j'ai envie de l'avoir maintenant.
Ah bah
Ouais, moi
voilà.
aussi.
Mais j'étais agréablement surprise. Je pensais pas que. Enfin, pour moi, je connais pas du tout de séries similaires en France. Voilà.
Est-ce que tu connais This Country en
Bien
Angleterre
sûr,
et Welcome to
évidemment.
Flatch avec son truc? Est-ce que c'est dans cette vibe-là?
Non, ce sont pas non plus des péquenauds, hein. Enfin, genre
D'accord.
enfin l'une des héroïnes, c'est une vraie policière en mode, elle veut monter les échelons, quoi. Donc c'est pas des, non, c'est
D'accord,
un
ok,
peu
il n'y a
différent.
pas. D'accord, ok. Oui, mais enfin,
C'est un peu
c'est.
plus rapide aussi, c'est un peu plus
D'accord,
rythmé.
ok. Mélanie, est-ce que tu as une petite recommandation de quelque chose que j'aurais pu oublier, qu'il faudrait regarder, rattraper?
Ben, on n'a pas parlé de Chair tendre, je crois.
Non, en effet. Vas-y, c'est ton
Donc,
moment. Brille.
Ah, super. Donc, Cher Tran, qui est disponible sur France 2 TV Slash, comme La fille au cœur de cochon. L'histoire d'une jeune fille de 17 ans à travers sa. Alors, attends, que je ne dise pas bêtise, que j'utilise les bons termes.
Intersexuation, c'est ça que tu veux dire?
Voilà, c'était ce
Oui.
mot-là que je cherchais. Donc, voilà. Et c'était sur 10 épisodes qui sont vraiment bien écrits. Tu vois, quand j'ai regardé les deux, en fait, je regardais un épisode sur deux pour pas faire du binge. Et quand tu regardes les deux, là, tu vois vraiment la différence d'écriture. J'ai plus accroché sur Chair tendre, largement, que sur La fille au cœur de cochon. J'ai trouvé c'était plus pointu, c'était beaucoup mieux écrit, je trouve.
Et je trouve que les acteurs étaient
Rappelez-moi,
meilleurs aussi.
Et les acteurs
voilà.
étaient meilleurs.
Est-ce qu'il y
Et
a Daphné
comment elle
Burki,
s'appelle?
non?
Voilà, Daphné
Oh, ouais,
Burki.
non, mais elle joue un second rôle, hein. Enfin,
Mais
je trouve.
Non, mais on la voit quand même pas mal. C'est
Oui,
la mère de la
on la
jeune
voit.
fille.
Oui.
Et qui est. Je l'ai trouvée vachement bien. Je ne sais plus si elle avait déjà joué dans autre chose avant, Daphné Burki.
Mais
Si, bon.
c'est. Moi, je me souvenais d'avoir été surpris de l'avoir en tant qu'actrice. Donc,
Oui, bah moi
sûrement
aussi,
qu'elle
c'est
n'avait
pour
pas fait
ça.
grand-chose avant.
Voilà. Donc, non, oui, le cast aussi est très bien. Enfin. Enfin, très bonne surprise pour moi, quoi. Chair tendre.
Ça m'a fait rire, donc je partage cette anecdote avec vous. Dans le dossier de presse, l'autrice disait en fait, en France, il y a 2% de personnes rousses et il y a à peu près 2% de personnes intersexes aussi. Voilà. C'était pas drôle, désolé.
Ah,
Ok,
voilà.
merci.
Non, mais c'est pour vous
Maxime.
rendre compte la quantité, enfin, le nombre, en fait. C'est
Oui,
pas
oui.
courant, mais il y en a quand même
Ouais.
beaucoup, quoi. Voilà.
Maxime, ta recommandation.
Je peux tricher en avoir deux.
Tout dépend lesquels c'est, mais vas-y.
D'accord. La première, c'est Les Papillons Morts, qui est dispo, enfin, qui était dispo sur Arte et qui l'est maintenant sur Netflix. Et
Ouais.
c'est l'histoire d'un écrivain qui est joué par Nicolas Duvauchel, qui rencontre un serial killer, qui est joué par Neil Sarestrup. Et ce serial killer, en fait, l'engage pour lui raconter son histoire d'amour avec sa femme. Qu'il a depuis les années 60, je crois, ou 70. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, Nicolas Duvauchel, enfin, le personnage de Nicolas Duvauchel, va un petit peu vriller. Je vais pas en raconter plus parce que ce serait,
non, il faut spoiler, pas, ouais.
Ce serait spoiler la série parce que j'ai vraiment raconté le minimum de ce qui s'y passe et j'ai trouvé ça excellent, vraiment excellent de A à Z avec quelques défauts d'écriture par moment, notamment sur la fin où en fait je pense qu'il aurait fallu peut-être deux épisodes de plus et un peu plus de personnages pour qu'on en arrive à l'événement final, enfin voilà, sans spoiler. Et voilà, pour moi c'est le défaut, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était quand même ultra prenant, très bien interprété. Nils Harris Trupp et Nicolas Dubochel sont dinguissimes dedans. Enfin, vraiment, pour moi, en termes de jeu d'acteur cette année dans les séries françaises, c'est les deux meilleurs de loin. Et il y avait une petite vibe, saga de l'été, dans les intrigues qui, moi, m'a beaucoup plu. Par moments, j'avais l'impression de regarder Dolmen, en fait. avec une qualité visuelle et une qualité scénaristique qui l'apporte encore plus loin, mais vraiment un truc de j'avais envie de regarder le prochain épisode parce que ça se terminait sur un cliffhanger et je voulais savoir la suite, quoi.
Ah non, j'ai une petite anecdote pas drôle à la Haki. À un moment donné, ils vont faire des meurtres dans les années 60 ou 70. Ils vont faire des meurtres dans l'Ariège. Voilà. Ariège représente. Et voilà. Ça m'a fait plaisir de voir mon nom dans une série. Enfin, le nom de mon département.
Représenté très justement, bien sûr. Hein.
Ben, évidemment. Maxime, la deuxième.
Oui, alors je triche encore parce que c'est ni une série et ça s'est terminé en septembre. C'est la première saison de RuPaul's Drag Race. Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, mais bon, on a déjà parlé de Selling Sunset ou des trucs comme ça, donc c'est bon. Hein. C'est la plus grande réussite télévisuelle française de l'année pour moi, de loin.
Chez Slash. Hein.
Encore chez Slash. C'est dur à dire, c'est comme
ouais, c'est vrai.
Et j'ai envie que tout le monde regarde ça, même s'il y a déjà beaucoup de gens qui étaient devant. C'est drôle, c'est ultra bien fait, ça a rien de cheap par rapport à la version US ou par rapport à n'importe quelle version. Enfin, vraiment, il faut regarder parce qu'il y a des moyens. Ou alors, s'ils sont pas là, c'est que vraiment les queens elles sont encore plus au-dessus que ce que je pensais. Et voilà, non, il faut regarder, c'est génial. Et vive RuPaul's Drag Race.
Ok, merci pour tous les trois, pour vos recommandations. Et donc là, on va parler juste un petit peu d'actualité qui concerne les séries françaises parce que l'heure est grave. TF1 et M6 vont se barrer de Salto et Canal+ va racheter OCS. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Parce que personnellement, ça me fait peur pour l'avenir des comédies de OCS signature qui sont quand même assez très libres, osées et que je ne veux pas voir disparaître. Et Salto, c'est dommage parce que c'est la plateforme qui risque de se casser la gueule, alors qu'elle, franchement, elle avait quand même une certaine classe.
Je pense pas que, enfin, le deal pour OCS et Canal, il me semble, c'est qu'OCS garde déjà tous ses employés et garde, entre guillemets, un édito indépendant. Donc, même si c'est le groupe Canal qui rachète, je pense pas qu'il y ait de soucis par rapport à leur autonomie.
Tu penses pas qu'ils vont absorber OCS et la faire disparaître?
Je ne sens pas que ce soit le plan. Je crois que j'ai lu un article hier qui ne me semble pas que ce soit le plan. Je suis pas sûre à 100%.
Pour Canal, je pense que ça va plus être l'inverse. Ils vont peut-être se décharger de leur série sur OCS et libérer un peu de temps d'antenne sur Canal.
Bon, ça va, ils ont que le lundi, a priori, qui est dédié aux séries. Hein, donc c'est pas
non plus comme ça. Non, le jeudi aussi.
Ah ouais.
Ouais, mais
d'ailleurs, tant que je vous tiens, là, Canal+ vient d'annoncer la mise en production d'une série Corto Maltese en 6 épisodes par Frank Miller. Voilà, produit par Frank Miller. Voilà, ah c'était une info qui vient de tomber là il y a une heure.
En fait, le truc, c'est que Canal essaye de s'imposer sur une scène internationale et ils n'ont pas vraiment de plateforme encore, sauf chez nous. Et c'est en ayant plus de contenu comme OCS ou d'autres, parce qu'on parle, ils ont quand même mentionné Canal en rachat de Salto aussi, hein, n'oubliez pas.
Alors, pour le coup, moi j'ai compris que c'était pas un rachat global, c'était un rachat des parts de TF1 et d'M6.
Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pas déconnant, je trouve, pour leur plan, mais parce qu'ils auront au moins déjà la base qui est donc la plateforme, qui est très bien, encore une fois, Salto, l'interface de Salto est l'une, pour moi, les plus abouties en termes de design, etc.
Par contre, pour OCS, le problème se portera peut-être plus sur leur catalogue de séries achetées.
Bon, après, ils n'ont pas beaucoup d'acquisitions au CS en soi, vu que de toute façon, HBO...
Non, mais c'est-à-dire que le deal avec HBO va quand même...
va sauter, quoi.
Bah oui, mais voilà, oui, donc à un moment donné, ça va être...
Il ira ailleurs.
Compliqué pour eux.
Bah, c'est
il ira ailleurs. Enfin,
t'en as déjà plusieurs qui sont partis, ça fait un trou dans le catalogue. Quand
même. Il n'était pas mentionné aussi que Prime voulait récupérer les séries HBO.
Bah, c'est encore en enchères, ça, non?
Ouais, ils en ont parlé pendant un moment, mais bah, c'était pas signé, quoi.
Mais c'est vrai que en plus avec Lionsgate qui se casse la gueule aussi en France, donc
ah oui, qui est la plateforme. Alors attends, c'était qui avant?
Starzplay.
Starzplay.
Qui a très vécu en France. Hein.
Faut
parce que la stratégie d'avoir plusieurs, enfin de se dire que les consommateurs auront plusieurs plateformes, elle marche pas tant que ça en fait. Du coup, on le voit en France, on le voit à notre échelle, c'est que il y en a qui se cassent la gueule ou qui vont être absorbés ou voilà. Enfin, pour moi, c'est le jeu et c'est ce qu'on attendait un petit peu et c'est juste que c'est en train de se passer quoi.
Sachant que la prochaine qui arrive, c'est Paramount Plus le 1er décembre.
Jeudi, ouais, 1er décembre. Jeudi,
voilà. Où il y aura quand même plus ou moins tout le Taylor Sheridan Universe. Sheridan. Hein, voilà, ouais. C'est ça. Donc,
mais mine de rien, pour le grand public, et c'est la majeure partie de ceux qui. Enfin, de toute façon, on est tous du grand public quand on s'inscrit sur une plateforme. On ne va pas acheter les petites plateformes qui arrivent comme ça, qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ont des petits catalogues et ça va se casser la gueule au bout d'un an. Ou alors ça va être acheté, il y en a d'autres qui vont les avaler. Et en vrai, j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. C'est ça aussi de vouloir toujours se faire de la thune sur le dos des gens et de vouloir toujours avoir son bout de gras. Enfin non, ça marche pas. Voilà, désolé.
Pour Paramount, ça sera disponible dans l'offre canal ciné-série. Et après oui, on pourra s'abonner aussi indépendamment, bien sûr. Mais personnellement, j'étais plutôt agréablement surprise par leur catalogue parce qu'il y a quand même des séries cultes qui vont être disponibles.
Est-ce que tu peux donner quelques noms si tu t'en souviens
ou
pas pour essayer à pâter?
Non, je peux parce que ça sera diffusé plus tard, donc ce sera bon, tout le monde saura de toute façon. Il y aura genre House qui est disponible nulle part encore.
Ah oui, c'est bien ça. Ah oui.
Ah mais ouais, c'est très bien. Et ce que en animation, c'est ce qu'ils ont dit déjà, donc beaucoup de Nickelodeon, etc. La patte patrouille, quoi, j'ai envie de dire.
Il n'y avait pas du Frasier aussi qui devait
avoir. C'est Cheers et Frasier.
Ouais, et oui, mais ça c'est bien aussi. Il y a Nurse Jackie aussi, donc ça c'est pas mal.
Ah oui, toutes les choses qui sont quand même assez, j'allais dire assez récentes, mais qui ont disparu de la surface de la planète et
c'est ça.
Personne ne s'en souvient, quoi.
Mais qui ne parle qu'à nous.
Nurse Jackie, c'était sûr. Franchement, je pense que ça va bien marcher, je pense.
Pour moi, c'est pas ça qui leur permettra d'être viable dans le futur, d'avoir des séries de niche. C'est dommage, hein. Je dis pas que c'est une bonne chose que tout se casse la gueule, mais désolé, c'est pas le produit qui appelle le plus le talent.
Est-ce que pour essayer d'être performant, ces plateformes-là qui arrivent ou qui existent comme Salto ne devraient pas proposer aussi des créations originales?
Mais bien sûr que si. Évidemment, mais ils n'ont pas les sous en fait. C'est toujours ça la question.
Regarde France TV, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment beaucoup de budget et pourtant ils arrivent à faire quelque chose de pas trop dégueulasse.
Bien sûr, mais ils ont encore des aides publiques, ça reste France Télé, n'oublions pas. Et c'est cheap, désolé.
Non, c'est pas cheap.
On va pas être d'accord sur
ça. Même HP, j'adore Der Beggers et je trouve ça un peu cheap, quoi. Voilà.
Moi, je trouve pas ça cheap. Je trouve que c'est plutôt fait avec l'argent que ça.
Oui, d'accord. Mais
ça fait pas débrouille.
Non, je suis d'accord. Ça fait pas débrouille. Ok.
Voilà.
Ok.
Ça reste qualitatif, quand même.
Oui, tout à fait.
Bon. J'ai l'impression qu'on a fait le tour quand même de tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. J'ai noté deux séries à venir. Il y en a une, Maxime va être content, c'est 1905. Donc c'est la suite de 1900.
Ah oui.
Non, j'ai un trou. C'est 1901.
1923, 1902. Tu veux dire?
Non, 2009.
Ah. La série Canal
Paris
Plus,
Police, 1905.
Non.
Oui, mais c'est la précédente, c'est quoi?
1900.
Tout court? Je crois que c'était 1900. Hein, moi. Enfin, ok, d'accord.
Non, 1900. Bon,
voilà. Et on aura le polar adapté, ou sur une idée. Non, je ne sais plus ce qu'avait dit Tom. Vortex, c'est quoi? C'est adapté sur une idée de Franck Tilliez? Ou adapté d'un roman de Franck Tilliez?
Oui, c'est écrit par.
Alors, Tom confirme, c'est bien une idée de Tilliez. Et ça arrive sur France 2 avec Thomas Sisley. Voilà. Ouais. Bon, sur ce, je vais vous remercier d'avoir participé à cette... Ah si, juste, je vais juste mentionner quelque chose, c'est un petit coup de gueule, là, comme ça. Marie-Antoinette, j'aime beaucoup le patrimoine français. Je sais que la royauté passionne, notre royauté passionne le monde entier. Mais que ce soit pour Versailles ou Marie-Antoinette, s'il vous plaît, prenez des acteurs français, prenez des scénaristes français. N'ayez pas peur, voilà. On mérite quand même d'avoir de bonnes séries françaises sur notre royauté, et pas que ce soit les Américains ou les Anglais qui se l'approprient. Voilà.
Bah, puis c'est con parce que Versailles, c'est à 10 km des studios, quoi.
C'est
mais
ça.
Après, Versailles, je vous rappelle que si ça s'est autant exporté, c'est parce que c'était des Anglais. Hein. Je pense
oui,
pas que ça avait été comme ça à la place.
Je suis tout à fait d'accord. Sauf que le problème, c'est que ça me fait mal au cœur de regarder une série comme ça en ne voyant aucun Français ou que ce soit pas fait par le talent français. Voilà. Bon, enfin,
ah
bon,
bah si, dans Marie-Antoinette, il y a la jeune Gaia Gava Weiss.
Arrête, à qui tu sais de quoi je veux parler. Bon, c'est pas grave.
Oui, je sais.
Voilà. Donc, on vous invite à nous suivre sur tous les réseaux, à écouter cette émission. Merci d'avoir écouté cette émission, à écouter les autres émissions.
Merci.
Merci.
Bonne soirée. Enfin, bon vent à vous.
Bon vent. Bye.
Au revoir.
J'allais dire bonne soirée.
Mais tu pouvais dire bonne soirée.
Mais non, après, s'ils écoutent ça le jour. La cata. Ben ouais, Tom, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le talent, quoi.